France Musique. Classique Info avec vous, Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Gabriel.
On commence avec un événement dans le monde de l'art, la mise en vente très prochaine d'un rare portrait de Mozart enfant.
Ce tableau qui provient de la collection Corto est attribué au peintre véronais Gianbettino Cignaroli. Daté de 1770, on y voit donc Mozart âgé de 13 ans, costume rouge vif, perruque blanche, devant son clavecin. C'est l'un des très rares portraits du compositeur enfant peint de son vivant. Probablement le dernier, encore en collection privée, déclare la maison Christie's. Elle le vendra aux enchères le 27 novembre prochain à Paris pour un prix estimé entre 800 000 et 1 200 000 euros.
À Bougival, dans les Yvelines, le chantier de rénovation de la Villa Viardot a officiellement démarré, Sophie.
Il a été lancé hier en présence du baryton Georges Chaminet à l'origine du projet. Ancienne résidence de la cantatrice Pauline Viardot, disparue en 1910, la villa a été construite en 1830, extrêmement dégradée. Elle a bénéficié d'une aide de 500 000 euros du loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern. À terme, elle devrait accueillir du public à partir de juillet 2021, peut-on lire dans le Parisien, et être inclus dans le futur centre européen de la musique.
Direction le Chili maintenant ce matin.
Après vous avoir fait écouter l'ode à la joie résonner dans les rues de Beyrouth, ce matin c'est au Chili que je vous emmène, à Santiago, où la musique soutient également les manifestants. Une vidéo diffusée sur internet nous montre un orchestre qui interprète devant une église, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Le public uni ne sera jamais vaincu. L'ensemble est rejoint par la foule qui chante avec les musiciens, composés par Sergio Ortega dans les années 70, avant la dictature de Pinochet. Ce titre est devenu un hymne, un symbole des luttes sociales dans le monde entier. Et elle a été reprise au Chili, où hier encore, de nouvelles manifestations avaient lieu contre les inégalités socio-économiques du pays, dirigées par le président Sebastián Piñera. Et comme tous les dimanches, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Thion. Guillaume Thion, où est-ce que vous nous emmenez ce matin ?
Bonjour Sophia, je me trouvais entre la France et l'Italie, c'est-à-dire à l'Opéra Bastille pour Don Carlo. Alors avec cette œuvre de Verdi, il faut surtout bien préciser de quoi on parle. La nature du spectacle tient à l'apparition d'une seule consonne, explication. En 1867, Giuseppe Verdi compose un grand opéra. Alors nous avons déjà parlé de ce genre pour Guillaume Tell. Un grand opéra, c'est sujet historique, chœur, ballet, bref, du lourd. L'œuvre, écrite et chantée en français, commande de l'Opéra de Paris après le triomphe des Vêpres siciliennes, s'intitule Don Carlos. En 1884, le compositeur reprend une énième fois son canevas, car à l'époque les œuvres qui voyageaient d'un pays à l'autre étaient souvent remodelées, et il traduit Don Carlos en italien qui devient Don Carlo sans S. Et à Bastille se trouve monté en ce moment ce Don Carlo sans S, dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski, qui avait été créé il y a 2 ans pour Don Carlos avec un S. Exit donc le texte en français, place au texte en italien, prosodiquement plus cher à Verdi dans un opéra où l'on retrouve volontiers sa patte sans les pièges des E en fin de mot et qui se trouve beaucoup mieux connu et maîtrisé par les chanteurs que le texte français rarement joué. Mais au-delà du texte, la traduction est aussi associée à une réorientation du propos. Le caractère sombre, vraiment très noir de Don Carlos se trouve un brin atténué dans Don Carlo, qui, sans se rapporter à la légèreté verdienne, marque un cap dans la carrière du compositeur, que ce soit dans l'épaisseur du tissu orchestral, mais aussi dans le ton. Cela se retrouve donc dans la distribution. Don Carlos, tragique. Don Carlo, alors pas comique. Ne me faites pas dire que Roberto Alagna est comique, mais plus mélodramatique. Donc, pour Don Carlos, il y a 2 ans, Jonas Kaufmann. Pour Don Carlo, cette année, Roberto Alagna. Pour Don Carlos, Sonia Yoncheva. Pour Don Carlo, Alexandra Kujak. Beaucoup de disparités, vous le voyez, entre Carlos et Carlo. Et à noter qu'à partir du 11 novembre, un deuxième cast alignera aussi à Bastille, Michael Fabiano et Nicole Carr. Pour le reste, la mise en scène de Krzysztof Warlikowski aligne son cheval en stuc, ses crépitements vidéo et son gymnase. Que ce soit dans Carlo ou Carlos, elle reste, elle, profondément hypnotique.
Merci Guillaume Thion, on vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique Retour de spectacle en partenariat avec Libération.
Et nous terminons à Berlin avec du cuir, Rachmaninov et des harnais.
Ce savoureux mélange, Gabriel, est le fruit de la rencontre entre le fétichisme et la musique classique dans le cadre du festival Folsholm, consacré à Berlin au BDSM. C'est un événement également politique qui prône la liberté sexuelle. Et pour son ouverture, donc, des concerts de musique classique étaient organisés avec des musiciens vêtus de cuir noir pour interpréter Rachmaninov ou un clarinettiste torse nu et en harnais pour du Vivaldi. C'est raconté dans un très bon article du New York Times avec des photos.
Ah bah je vais aller voir ça. Merci Sophie Anastasio. À demain, 7h45.
À réécouter sur francemusique.fr.